Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants. 24 heures, la presse et le devoir. Au programme, voici pourquoi l'idée de fermer le chemin Roxham est irréaliste. Métronome, la maudite machine, et prendre son temps avec Marcel. Bonne écoute.
Voici pourquoi l'idée de fermer le chemin Roxham est irréaliste. Un texte de Léa Martin, paru le 23 février 2023, volume 22, numéro 48, dans le journal 24 heures. Un pays a des frontières. Le premier ministre est responsable pour les frontières et il devrait fermer le chemin Roxham d'ici 30 jours. A tranché M. Poilievre dans un point de presse impromptu au Parlement mardi. La sortie du chef conservateur survient au moment où le premier ministre du Québec, François Legault, accentue la pression sur Justin Trudeau pour qu'il trouve une solution à l'afflux de migrants au chemin Roxham. M. Legault a effectivement réclamé, plus tôt cette semaine, qu'Ottawa paie son dû au Québec et redirige les demandeurs d'asile vers d'autres provinces. Il a également demandé à Justin Trudeau d'en faire un enjeu prioritaire lors de sa rencontre avec Joe Biden et de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. C'est quoi l'entente sur les tiers pays sûrs? En bref, cette entente, entrée en vigueur en 2004, oblige les demandeurs d'asile à présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent, sauf exception. Si, par exemple, une personne passe par les États-Unis, considéré comme un pays sûr, pour demander l'asile au Canada, elle risque de voir sa demande être refusée. Elle doit plutôt la présenter aux États-Unis. À l'heure actuelle, cette entente ne concerne que les postes frontaliers officiels. C'est donc, pour contourner cette entente, que des demandeurs d'asile empruntent des passages irréguliers comme le chemin Roxham. Ce que souhaite le gouvernement Legault, c'est que toute la frontière soit protégée par cette entente, pas seulement les passages officiels. Des experts en immigration nous expliquent pourquoi cette demande a très peu de chances de se réaliser. Les États-Unis n'ont aucun avantage à accepter. Les États-Unis n'ont pas réellement intérêt à renégocier l'entente, soutient Baptiste Jouzier, doctorant de l'Université Laval et spécialiste en droit international de l'immigration. Ça leur mettrait une pression supplémentaire, car les personnes qui transitent par le Canada à l'heure actuelle, par exemple par le chemin Roxham, deviennent de la responsabilité du Canada. J'aimerais qu'elle nous dise comment elle va opérationnaliser tout ça, lance la professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, Ndiaye Dianaba Ndiaye. Est-ce qu'on va déployer des ressources humaines tout au long de la frontière? Demande la spécialiste en droit de l'immigration. À ce moment-là, il y a un problème de faisabilité. Les deux chercheurs rappellent aussi que de renvoyer des demandeurs d'asile vers les États-Unis engendre des frais. Ils excluent également la construction d'un mur à la frontière, une solution qui ne s'est jamais montrée bien efficace dans l'histoire. Ça ne ferait que déplacer l'irrégularité. On cherche toujours à supprimer l'illégalité, l'irrégularité, mais on la déplace, affirme Baptiste Jouzier, qui fait référence au modèle de contrôle des frontières canadiens et européens. En Europe, l'équivalent de l'entente sur les tiers pays sûrs s'appelle le règlement de Dublin. Et comme pour l'entente entre le Canada et les États-Unis, il n'est pas infaillible. Les personnes ont essayé de ne pas se faire enregistrer dans le pays de première entrée pour qu'on ne puisse pas savoir qu'elles ont transité ici, ajoute le chercheur. Ces personnes en situation d'irrégularité finissent par disparaître dans la nature et vivent sur le territoire en se cachant des autorités. Une situation qui peut les mettre dans une position très précaire et dangereuse. Avec Guillaume Saint-Pierre, agence QMI. C'était? Voici pourquoi l'idée de fermer le chemin Roxham est irréaliste. Un texte de Léa Martin, paru le 23 février 2023, volume 22, numéro 48, dans le journal 24 heures.
Métronome, la maudite machine, un texte de Catherine Perrin, paru le 25 février 2023 dans la presse. À votre avis, à quoi peut bien servir cette passionnante vidéo, La maudite machine, chanson de 1973 du groupe Octobre, qui est justement à 110 battements par minute? Elle permet à un musicien qui n'a pas de métronome de jouer précisément à 110 battements par minute. Je croyais la batterie de Pierre Hébert aussi immuable qu'une machine, mais en y superposant le métronome, on mesure la marge humaine pour le mieux. On trouve des centaines de ces vidéos sur YouTube, à toutes les vitesses. Sans parler des nombreuses applications qui remplacent parfaitement cette antiquité. C'est en 1816 qu'un ingénieur bavarois nommé Johann Meitzel a fait breveter le métronome, qui est l'échelle de référence du rythme pour les musiciens. Toute petite, quand j'ai commencé le piano, on avait encore le vieux métronome en forme de pyramide utilisé chez ma grand-mère. J'aurais dû le garder. En ligne, ces vieilles machines se vendent maintenant des centaines de dollars. Je me rappelle la sensation du curseur bougeant sur la tige, un métal solide cliquetant doucement sur son échelle graduée. Avec son boîtier en bakélite, ce plastique lourd et increvable, l'appareil dégageait une impression de solidité, de mécanique irréprochable. Mais le chef d'orchestre, Bernard Labadie, n'a jamais eu la même confiance que moi. On pouvait toujours se demander si le ressort fonctionnait correctement, si le tempo donné était exact. Depuis deux siècles, une bataille fait rage sur les indications métronomiques de Beethoven dans ses symphonies. Elles sont si rapides qu'on a souvent dit que son métronome devait être défectueux. Une explication quand même un peu forte de café, selon Bernard Labadie. Le deuxième mouvement de la 8e symphonie de Beethoven est considéré comme un clin d'œil au métronome dont il connaissait l'inventeur. Le chef, Paavo Järvi, adopte précisément le tempo noté par Beethoven, 88 battements par minute, ce qui semble, ma foi, très saillant pour un allegretto. Mais si on superpose un véritable métronome à cette performance, les décalages sont nombreux, et je vous jure, c'est le métronome qui a l'air fou. Sans repasser la théorie de la relativité, j'en serais bien incapable. On peut dire que le temps est élastique. Les deux minutes qui nous séparent du résultat d'un test de grossesse sont à la fois interminables et denses. Mais deux minutes au soleil sur une plage ont la légèreté d'une meringue. Pareil en musique, Le temps est variable selon la quantité et la texture des notes qu'il occupe et selon la personnalité des musiciens. En musique classique, on n'a pas la référence d'une batterie qui garde le beat. Tout devient donc négociable. Les musiciens doivent apprendre à se parler, car l'absolu du métronome ne vaut rien. C'est même presque une insulte de l'invoquer ou de proposer de l'utiliser dans un groupe. La diplomatie est utile. Je pense qu'on ne compte pas de la même façon sera mieux reçu que « tu accélères ». Je ne saisis pas ta conception du rythme passera mieux que « tu rushes toujours le troisième temps ». Yukari Kuzino, violon solo de l'Orchestre Métropolitain, fait beaucoup de musique de chambre. Dans une vidéo produite pour Ici Musique 2, elle explique que le métronome lui permet d'être consciente de ce qu'elle fait. Il y a une grande différence entre prendre des libertés et faire n'importe quoi, dit-elle. Si je fais quelque chose d'illogique rythmiquement, je fais des jambettes à mes collègues. Je vais d'abord m'arranger pour avoir une structure stable en utilisant le métronome. Ensuite, si j'ai des intentions d'aller plus vite ou plus lentement, bouger à l'intérieur d'une phrase, tant que ce que je fais est clair et volontaire, mes collègues vont être heureux et suivre sans problème. Le travail entre les interprètes est toujours un défi, mais quand il s'agit d'une nouvelle œuvre, il faut aussi s'entendre avec le compositeur. Olga Ranzenhofer, fondatrice et premier violon du Quatuor Molinari, l'a fait des centaines de fois. On travaille au départ avec le métronome pour bien comprendre les intentions du compositeur avant de les interpréter à notre goût. Il faut dire que les compositeurs eux-mêmes, en entendant la pièce prendre vie, changent parfois d'idée et réajustent leurs indications métronomiques. Le tempo n'est jamais immuable, la musique doit respirer, ce que le métronome ne fait pas, nous dit Olga Ranzenhofer. On a tous un rapport personnel avec cette machine impitoyable. Frédéric Lambert, alto solo à l'Orchestre symphonique de Laval et professeur à l'UQAM, dit toujours à ses étudiants « Le métronome, il faut simplement le voir comme quelqu'un qui nous veut du bien. Se faire dire nos vérités, ça fait souvent mal. Seuls les bons amis le font. » Il a raison. Quand j'apprends une nouvelle pièce, le test du métronome va détecter les passages moins sûrs techniquement. En travaillant des gammes et des arpèges, il permet de vérifier l'égalité et de monter peu à peu l'intensité de l'exercice. Depuis bien plus longtemps que la Fitbit pour nos entraînements, le métronome accompagne nos performances athlétiques à l'instrument. C'était « Métronome, la maudite machine », un texte de Catherine Perrin paru le 25 février 2023 dans la presse. Prendre son temps avec Marcel, un texte de André Lavoie, paru le 25 février 2023 dans Le Devoir. Marcel Proust, chantre du cœur et des salons, a dominé le XXe siècle et n'a pas dit son dernier mot. Certains auteurs semblent immortels, d'autres sombres dans l'oubli. Après un temps, qu'en reste-t-il? Dans sa série mensuelle « Faut-il relire ?», Le Devoir revisite un de ses écrivains avec l'aide d'admirateurs et d'observateurs attentifs. Aujourd'hui, place à Marcel Proust, 1871-1922, celui que tant de gens rêvent d'avoir lu ou qui suscite une dose de scepticisme devant l'enthousiasme des irréductibles dans la recherche du temps perdu. La recherche est comme une espèce de chasse au trésor, où le trésor est le temps et le passé la cachette, affirmait l'écrivain Vladimir Nabokov à propos de ce roman que plusieurs considèrent comme le plus important du XXe siècle. Les mêmes qualificatifs se répètent depuis longtemps à propos de la recherche du temps perdu, monument, cathédrale, Everest de la littérature, etc. Ils ont résonné l'an dernier, alors que la France a célébré le 100e anniversaire de la mort de Marcel Proust, survenu le 18 novembre 1922, alors qu'il habitait rue Hamelin, dans le 16e arrondissement, à Paris. Autobiographie déguisée pour les uns, brique littéraire pour les autres, l'œuvre phare de celui qui fut couronné du Goncourt pour le 2e volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, en 1919, a été en grande partie rédigé dans sa chambre. Né en 1871 au milieu d'une famille bourgeoise, ce fin observateur des mœurs parisiennes s'est peu à peu retiré du monde, affligé par des crises d'asthme, ce qui ne l'empêchait pas d'écrire et de nourrir des amours, dont avec le compositeur Reynaldo Hahn, qui se transformait souvent en amitié durable. Certains de ses anciens amants sont même devenus de véritables agents doubles, lui décrivant dans le menu détail ce qui agitait le tout Paris des salons. Proust, c'est long, c'est court. Aujourd'hui, qu'ont encore à nous dire Charles Swann, Odette de Crécy, Albertine Simonet, le baron de Charlus et Oriane de Guermantes? Beaucoup de choses, surtout à travers le regard de ce narrateur jamais nommé. Bien des gens du milieu littéraire croient que Marcel Proust est un auteur du XIXe siècle à cause de ses sujets, se désole Martin Robitaille, professeur au département des lettres et humanités de l'Université du Québec à Rimouski. En fait, c'est un écrivain radicalement moderne, découvrant des choses sur la conscience et l'inconscient, s'interrogeant sur le souvenir et le temps, de grandes questions philosophiques et existentielles. N'oublions pas qu'il est un contemporain de Sigmund Freud. Pour celui qui a fait de sa correspondance un objet de recherche, Martin Robitaille considère que Marcel Proust a offert au monde une œuvre à la fois magnifique par sa prose et sans pitié sur les relations humaines. Bien des clichés entourent la figure de celui qui aura vu de son vivant la parution de 4 des 7 volumes d'À la recherche du temps perdu. Il y a, bien sûr, le plus célèbre incipit de l'histoire de la littérature française, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », et le pouvoir de la Madeleine, ce petit gâteau qui, trempé dans la tisane, se transforme en machine à voyager dans le temps. Mais ce qui revient souvent lorsqu'il s'agit de diaboliser ou de vénérer Marcel Proust se résume à la longueur de ses phrases. Une compterait 931 mots, un record, alors que la moyenne se situe autour de 34. Un défi de lecture? Non. Un plaisir jubilatoire, selon Bernabé Wesley, professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. La phrase proustienne n'est pas assez longue, affirme sans hésiter ce spécialiste du roman français du XXe siècle, avant 1945. C'est un reproche déjà formulé par Samuel Beckett, qui disait que cette phrase repose sur le principe de superposition de strates de temporalité différentes à l'intérieur même de la syntaxe. Beckett se plaignait que la phrase proustienne soit trop courte pour représenter ça. Selon Barnabé Wesley, ce qu'il y a de lourd, c'est cette mode de dire que l'on n'a pas lu Proust parce que l'œuvre est très intimidante. Dès que l'on s'y plonge, il y a un réel plaisir de lecture et, oui, des moments d'ennui. Or, à la recherche du temps perdu, ce sont surtout de grands moments d'émotion. Et s'il y a une chose qui m'indigne chez Proust, c'est la cruauté de certains personnages, notamment liés au snobisme et aux mondanités. Apprivoiser Proust, une page à la fois. J'ai reçu « À la recherche du temps perdu » en cadeau en 2010, et ça m'a pris 10 ans à le lire à raison d'une dizaine de pages tous les soirs. Voilà la méthode de l'avocat Marc Bellemare, ancien ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Jean Charest, lui qui n'avait jamais envisagé d'entreprendre ce marathon littéraire. Vous écoutez « Prendre son temps avec Marcel », un texte de André Lavoie, paru le 25 février 2023, dans Le Devoir. Le 100e anniversaire du décès de Marcel Proust est devenu le prétexte parfait pour rendre contagieuse son admiration à l'égard d'un roman qui décrit la passion et la jalousie de façon aussi authentique et aussi belle. En novembre dernier, à Québec, il a organisé, à ses frais, un hommage comprenant un concert des violons du roi au Palais Montcalm, une mise en lecture de la pièce de Sylvie Moreau « Dans la tête de Proust », une série de conférences auxquelles participait Martin Robitaille, ainsi qu'un entretien avec le parrain de l'événement, Lucien Bouchard. Ce dernier fut d'ailleurs l'un des modèles de Marc Bellemare pour plonger dans l'œuvre de celui qu'il décrit comme un gars compliqué. Proust a donné une forme d'immortalité à la Belle Époque et à Paris, véritable centre du monde à ce moment-là, souligne celui qui est également mécène, et que le sculpteur français Jean-Pierre Reynaud a surnommé son Médicis. Recevoir à la recherche du temps perdu fut un tournant pour Marc Bellemare, le lecteur, une grâce qu'il souhaite au plus grand nombre, peu importe le livre. Ce que vous offrez ne sera peut-être pas lu bientôt, mais en le laissant traîner, il peut devenir important pour quelqu'un lors d'un voyage, d'une séparation ou d'un deuil. Dans la vie, il y a des espaces propices à la lecture. Depuis 30 ans, créer des moments propices pour Proust, c'est justement la mission de la cinéaste française Véronique Aubouy. D'abord, auprès de son entourage, elle a demandé à chacun de lire 2 pages d'À la recherche, le tout capté en plan-séquence, caméra fixe, dans le décor de leur choix, bruyant ou paisible, urbain ou champêtre. Présenté en ce moment au château de Montsoreau, musée d'art contemporain, dans la vallée de la Loire, Proust lu totalise à ce jour 151 heures et 43 minutes et la cinéaste a bon espoir de mener à bien cette traversée d'ici quelques années. Démarche singulière et solitaire, mais qui compte des milliers de participants de tous les horizons, dont l'acteur Kevin Kline et le cinéaste Albert Serra, elle relevait d'une nécessité. Proust était devenu une obsession et je voulais m'en débarrasser, précise Véronique Aubouy au bout du fil. Ce livre, je le connais très bien, mais je ne voulais pas en faire une fiction. Or, sur 3 décennies, Proust lu raconte bien plus que la recherche. nous voyons beaucoup de choses changer, dont la manière de lire, et mon film devient une histoire de la vidéo. Les images du premier volume ressemblent à des souvenirs d'enfance brouillés. Ce n'est pas le seul projet de la cinéaste, mais assurément son plus ambitieux. Craint-elle de manquer de temps pour atteindre le fil d'arrivée? Je n'ai jamais eu peur de ne pas le terminer. Mais celle du moment de le finir, oui. C'est ma manière d'être dans le monde et de voir la vie à l'aune de Proust. J'ai commencé le dernier tome, Le Temps retrouvé. J'aimerais bien venir chez vous pour y inclure des lecteurs québécois, mais une fois le projet terminé, je vais passer à autre chose. Sans discipline particulière ou d'une fidèle régularité, la façon de se plonger dans l'œuvre de Marcel Proust reflète autant notre rapport à l'auteur qu'à la lecture. L'écrivain Charles Danzig, dans « Proust Océan », ne pouvait mieux résumer notre liberté de lecteur. Lire à la recherche du temps perdu, c'est traverser l'océan. Et c'est très facile, il suffit d'adapter sa respiration. C'était « Prendre son temps avec Marcel », un texte de André Lavoie, paru le 25 février 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert et Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Sartman à la présentation et au montage.